Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Hier après-midi, en remontant le boulevard Barbès à Paris, deux jeunes filles à vélo, l'une assise, l'autre debout à l'arrière, riant, chantant à tue-tête et roulant à toute vitesse. L'insouciance à l'état pur de ce que devrait être une jeunesse banale des années 2020. L'insouciance, vivre vite, rire, se rencontrer, échanger pendant des heures entre amis, expérimenter, danser, chanter, aimer et faire l'amour. Et justement, comment vivre l'amour et la sexualité quand on est jeune pendant une crise sanitaire qui s'éternise depuis un an, avec ces journées sans fin où l'ennui le dispute à la morosité, avec parfois, évidemment, de brèves échappées belles, et ce goût de l'interdit quand on brave le couvre-feu pour se retrouver. L'amour et la sexualité chez les vingtenaires pendant cette période compliquée où le sans-contact et les gestes barrières sont devenus une norme difficile à appliquer quand on a 20 ans, justement. Une émission qui intéressera bien sûr les parents et les grands-parents à l'écoute de cette jeunesse qui a parfois l'impression qu'on lui vole ses plus belles années. Ce matin, les jeunes ont la parole. Racontez-nous votre jeunesse amoureuse, que vous soyez en couple, célibataire, et quel que soit votre genre d'histoire. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main vous fasse et l'application France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Sophie Cadalène. Vous êtes psychanalyste, écrivaine, et vous avez écrit de nombreux livres, dont « Vivre ses désirs vite » chez Philippe Rey. « Vivre ses désirs vite », c'est ce qui pourrait caractériser la jeunesse, quelles que soient les époques.
Oui, dans la tête, dans l'imaginaire, on veut faire tout très vite, mais dans la réalité, dans le passage à l'acte, pas forcément. Ce qui caractérise aussi la jeunesse, et l'humain en général, mais la jeunesse aussi particulièrement, c'est cette résistance à faire le saut dans le vide de la réalisation, de l'expérience, de la concrétisation. Donc ça peut être un temps, effectivement, et en ce sens plutôt douloureux, quelquefois, où on a envie, effectivement, de plein de choses, où on boude de plein de choses, mais où on n'ose pas les faire.
Une jeunesse empêchée de vivre ses désirs, désirs au sens large, hein, et oui. pas seulement dans un sens charnel ou érotique. Hein.
Oui, qu'est-ce qui nous pousse dans la vie, qu'est-ce qui nous anime, vers quelle jouissance on a envie d'aller. Et effectivement, ça parle de réalisation professionnelle, de sa vie, de la rencontre amicale, de comment effectivement on va se construire dans cette vie à faire.
Bonjour Victoire Thuaillon.
Bonjour Ali.
Vous avez créé et vous animez le podcast Les Couilles sur la Table sur Binge Audio. Racontez-nous en quelques mots la ligne éditoriale des Couilles sur la Table.
Ah, des Couilles sur la Table.
Oui, on va revenir tout à l'heure sur le nouveau podcast, Le Cœur sur la Table.
Ouais, qui parle aussi d'amour. Les Couilles sur la Table, c'est un podcast qui s'intéresse à ce que ça veut dire d'être un homme aujourd'hui et qui s'intéresse aux masculinités d'un point de vue féministe.
Et depuis le 11 février dernier, vous avez lancé Le Cœur sur la Table.
Oui.
Qu'est-ce que vous racontez dans ce nouveau podcast ?
Ça, c'est un podcast documentaire. On entend des dizaines de voix différentes et de témoignages, mais aussi des concepts et des experts sur des questions psychologiques. Et la question qu'on se pose dans ce podcast, c'est quelles pratiques concrètes est-ce qu'on peut mettre en place dans nos vies pour vivre des relations intimes qui soient riches, qui soient profondes et qui soient égalitaires ? Comment on s'aime, en fait ?
Le premier épisode s'appelle « La princesse et l'escalator ». Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est l'escalator, c'est très intéressant. Bonjour René Grezard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Obs et à Rue 89, très bonne connaisseuse des réseaux sociaux, vous intéressez aux questions de genre et de sexualité. On peut lire avec beaucoup de profit, et c'est passionnant, vos rubriques Tinder Surprise et nos vies intimes. Qu'est-ce que vous y racontez ?
J'y raconte l'époque d'aujourd'hui, comment on se rencontre via les applis. C'est parti d'un récit d'une copine qui m'a raconté un date tout foireux, comme on en a beaucoup aujourd'hui. Et à partir de là, je me suis dit qu'il y avait matière à documenter quelque chose de nouveau et que c'était intéressant.
Bonjour Christophe Giraud.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris et vous avez publié « L'amour réaliste », sous-titré « La nouvelle expérience amoureuse des jeunes femmes ». L'amour réaliste, c'est quoi, en quelques mots ? On va y revenir, évidemment.
En quelques mots, bien sûr. L'amour réaliste, c'est un rapport à l'amour qui s'établit après les premières ruptures, celles des grandes histoires, des histoires importantes que les jeunes ont vécues en début de biographie amoureuse. Et c'est ce qui reste, ou en tout cas c'est le nouveau rapport à l'amour qui s'établit en opposition à l'amour idéalisé, qui est celui qui est vécu dans les toutes premières histoires, un amour de conte de fées, un amour romantique. Donc c'est l'opposé de ce romantisme et de cette scénarisation de l'amour.
Ça vous parle, ce concept d'amour réaliste, Victor Thuayon ?
Oui, et surtout la critique de l'amour romantique, des mythes qui y sont associés et des idéaux qui y sont associés, qui ne sont pas dénués là non plus de rapport de pouvoir.
Tiens, j'aimerais qu'on commence cette émission avec vous, Camille. Bienvenue, Camille. Bonjour Camille, vous êtes avec nous ?
Bonjour.
Alors Camille, vous avez 26 ans, vous êtes étudiante en droit. Comment vivez-vous l'amour en ce temps de crise sanitaire ? Racontez-nous un petit peu.
Alors je me suis mise avec mon copain avant le confinement, donc ça c'était quand même une chance. Et le pari a été de savoir si on allait passer le confinement ensemble. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc je pense que ça a un peu accéléré le couple en fait, sa composition. Et ça a amené aussi à repenser un peu les rapports qu'on peut avoir dans le couple. Puisque généralement c'est vrai qu'on se construit un petit peu soi-même et on se retrouve dans le couple au début en tout cas de la relation, et là ça on a tout de suite été rapprochés assez fortement, je dirais, dans le couple, donc ça a été quelque chose d'assez positif finalement, même si c'est un pari qui est risqué, encore une fois.
Qu'est-ce qui est risqué?
Je dirais de tout de suite rentrer dans cette routine du couple à cause du confinement et du couvre-feu aussi, de voir les défauts de l'autre, j'imagine, d'avoir cette routine qui n'est pas forcément très romantique au début, mais je pense que c'est ça qui est un peu risqué, mais ça casse ou ça passe, mais là c'est passé.
Et c'est un problème pour vous que cette routine ne soit pas très romantique? Pourquoi serait-ce un problème?
Je dirais qu'au début, tout est, dans l'idée qu'on a du couple, tout est assez rose. Mais finalement, c'est quelque chose qui permet de rentrer dans un couple plus mature. Donc au final, c'est vraiment quelque chose qui est assez positif. C'est vrai que c'est pas un problème, mais au départ, c'est un risque que je voyais. C'est quelque chose qui m'a fait grandir, je pense. C'était très positif.
De quelle façon ça vous a fait grandir, Camille ?
Déjà de prendre sur moi aussi, parce que j'avais jamais vécu avec quelqu'un aussi longtemps, et c'est vrai que le confinement c'est 24 heures sur 24 hein, quand même dans un studio parisien, c'est assez compliqué en début de relation, mais au final c'est d'apprendre à se connaître, de vivre ensemble, de faire attention aussi à ce qu'on fait, et aussi d'imaginer comment on construit le couple ensemble, faire des activités ensemble, et je pense que c'est ça qui m'a fait grandir aussi.
Alors Camille, d'un côté, vous nous l'avez expliqué en préparant cette émission, la crise sanitaire a accéléré votre installation au couple, et d'un autre côté, ça vous laisse le temps de maturer cette relation, de la laisser s'épanouir, c'est un double mouvement.
Exactement, je pense qu'elle s'est accélérée au début, du fait du confinement, de manière à cause d'événements extérieurs finalement. Mais maintenant, on a envie de prendre notre temps. Et oui, c'est assez paradoxal, mais c'est quelque chose qui est très agréable aussi de voir qu'on a commencé très vite. Et puis finalement, là, on prend notre temps, mais on a des bases très solides. Donc c'est quelque chose qui est assez rassurant aussi, j'imagine.
Sophie Cadalen.
Oui, je trouve que le témoignage de Camille raconte bien ce qu'il en est de notre rapport au temps, justement, pendant cette crise sanitaire, qui est complètement bouleversée. Les moments où tout s'arrête, notamment les confinements, finalement, d'un autre côté, tout s'accélère aussi, dans des choix de vie, dans des installations, dans des projections. Et puis, quand on commence à relâcher un peu, de nouveau, il y a une espèce de réclamation, justement, à enfin prendre le temps de ces étapes qu'on a brûlées, de ces choix, peut-être, qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire. Revenir aussi sur ce qu'elle disait de la routine, qui là, telle que la raconte Camille, me paraît bien être cette espèce de spectre un peu abstrait finalement. Est-ce que la routine sévit forcément entre quatre murs ensemble ? Non, c'est ce qu'on fait de nos vies. On peut être dans un rapport très routinier en se voyant deux fois par semaine dans les mêmes bars, en faisant les mêmes choses, en allant au cinéma toujours, en voyant les mêmes copains. Enfin, ça finalement, ça vient encore titiller cette question dont on a, je me rappelle, souvent parlé ensemble ici, de mais qu'est-ce qu'on met derrière ça? Quel spectre, quel effroi on met? Et que là, ce confinement, finalement, a obligé à affronter, et ça se révèle plutôt une construction, un tissage très doux, très harmonieux, très intéressant.
Victor Tuaillon.
Oui, ça peut être une période, je trouve que c'est ce qu'on entend dans le témoignage de Camille, c'est-à-dire que c'est une période qui est contraignante, qui est très dure, hein, je trouve, moralement, surtout pour la jeunesse. Mais je me dis que ça peut aussi être une période qui est propice à l'introspection, qui est propice non pas aux nouvelles rencontres, mais peut-être à l'approfondissement de certaines relations. Il me semble que c'est ce que raconte Camille aussi, c'est-à-dire on a le temps de fréquenter les gens avec qui on vit, et que c'est aussi une période qui nous met tous en face de cette question de avec qui on fait famille, en fait. C'est qui nos proches, c'est qui notre réseau affectif, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on se parle et comment on s'aime.
Christophe Giraud.
Oui, c'est tout à fait intéressant le cas de Camille, parce que si on remet en contexte les relations qu'elle avait avant le confinement, donc on voit bien des histoires qui se nouent, qui sont des histoires non cohabitantes, des histoires qui sont très progressives, très lentes, dans lesquelles les sentiments mettent du temps à émerger. Donc c'est la lenteur, on va dire, qui caractérise les histoires des jeunes actuellement. Et le confinement, le premier confinement en tout cas, a été l'occasion d'un choix. C'est-à-dire soit on arrête de se voir complètement, soit au contraire, on fait le pari de la cohabitation. Et la cohabitation n'a rien d'évident, en fait, même pour des gens qui commencent à s'aimer ou à s'apprécier. C'est un choix extrêmement extrêmement lourd. Donc Camille a fait ce choix-là, et ça s'est révélé positif, puisque la relation s'est renforcée, les sentiments sont devenus plus forts, c'est ce qu'elle appelle avoir des bases solides, et il y a une bonne entente qui s'est réalisée. Et donc oui, le confinement a marqué pour une partie des histoires qui aurait été beaucoup plus lente au départ, une véritable accélération, ce qu'elle appelle aussi une maturation, ce que vous avez appelé une maturation. Donc c'est tout à fait intéressant. Et pour d'autres, évidemment, le risque qui a été pris, on va dire, s'est fracassé sur la réalité, c'est-à-dire que les sentiments n'étaient pas si forts que ça, l'entente n'était pas, au quotidien, on va dire, a pas été satisfaisante. Et donc ça a pu marquer la fin d'histoires intimes qui auraient pu continuer sans le confinement.
Qu'est-ce que vous constatez, Camille, autour de vous, du point de vue des relations amoureuses, qu'est-ce que vous observez ?
J'ai remarqué que pour les relations qui avaient déjà commencé, ça avait renforcé ces relations, donc dans le même schéma que le mien. En revanche, pour les personnes qui avaient tendance à fréquenter des personnes grâce au réseau ou aux applications de rencontres, c'était beaucoup plus compliqué, puisque la phase en fait de séduction qui se fait généralement dans des cafés, dans des bars, ne peut pas être effectuée, notamment pendant le confinement et même encore aujourd'hui. Donc ça complique beaucoup, j'imagine, en tout cas c'est ce que je vois, les relations via application. Et ça, je pense que c'est vraiment difficile pour ces personnes de pouvoir rencontrer des personnes différentes. Et voilà, j'ai l'impression que mon témoignage est assez marginal, et que la plupart du temps, le Covid et le confinement ont compliqué, bien sûr, les relations.
Tiens, René Grezard, à propos de rencontres sur les réseaux sociaux, sur les applis ou les sites de rencontres, est-ce que justement ces applis type Tinder, Grindr, Adopte un mec, eh bien, est-ce que ce sont des manières privilégiées de se rencontrer quand on a 20 ans et des poussières, ou bien on se rencontre plutôt à partir de canaux comme Instagram, Youbo ou TikTok? Est-ce qu'il n'y a pas des idées reçues justement autour de ces manières de se rencontrer quand on a 20 ans?
Alors, en fait, c'est vrai que les jeunes, c'est horrible de parler comme ça, mais j'y suis contrainte. Un jour, il faut se résoudre à cette idée. Utilisent effectivement les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok pour se draguer. Enfin, c'est complètement possible, et que le champ est assez large. J'aimerais juste réagir sur ce que disait Camille. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle raconte, c'est que finalement, le Covid et ces confinements nous amènent à rediscuter en fait les normes de l'amour, parce que elle dit voilà, ça aurait pas dû être comme ça, mais finalement on a consolidé, et il y a des couples qui étaient amenés comment dire à travailler, et finalement qui se retrouvent tout le temps ensemble, et tout ça en fait nous pousse et nous force, je trouve, à nous poser la question de Comment on fait une relation, ce que disait un peu Victor aussi, et qu'est-ce qui est normal entre guillemets quoi. Et donc dans son début de relation, il y a ce truc de se dire on n'a pas fait exactement les choses comme ça, mais finalement c'est bien. Et finalement, moi ce qui m'intéresserait, c'est qu'on se dise est-ce que ça pourrait pas tout le temps être comme ça quoi. Enfin, est-ce qu'on pourrait pas tout le temps inventer des relations et faire qu'on soit au mieux. Et alors après, pour revenir sur les jeunes, moi ce que je recueille sur l'Obs, hein, donc dans les récits Tinder surprise, c'est effectivement de la détresse en fait, parce que il faut imaginer ce que c'est que la vie d'un jeune célibataire aujourd'hui. Il y a plus de dance floor, il y a plus de café, il y a plus il y a plus d'endroits pour se rencontrer. Et j'ajouterais que c'est quelque chose d'encore plus compliqué quand on appartient à une communauté, j'aime pas ce mot, mais entre guillemets, on va dire minoritaire, voilà, c'est un mot qui me semble plus cool. Par exemple, moi je connais plein de jeunes gays qui vont en soirée et pour qui c'est un lieu de socialisation et qui l'ont plus en fait. Donc effectivement, il reste les applis.
Et est-ce que les jeunes utilisent tant que ça les applis que je citais tout à l'heure, ou est-ce que ça passe plutôt par les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok ?
C'est un peu flou pour l'instant, donc j'ai pas la réponse à cette question, parce qu'il n'y a pas tellement d'études encore qui ont été faites sur le sujet, d'autant qu'on est dans une période très particulière, parce que en fait il faudrait qu'on ait plus de recul quoi. Donc à ma connaissance, peut-être qu'après autour de la table des invités on sait cette réponse, moi je ne l'ai pas, mais ce qui est sûr, c'est que les jeunes sont majoritairement sont plus nombreux à être sur les applis que les vieux. En gros, plus on va remonter dans les courbes et moins on trouvera de gens sur les applis, ce qui est quelque chose d'assez naturel, parce que, en gros, plus on est jeune et plus on est. Le smartphone fait partie de son corps, c'est une sorte de prolongement de sa main et de son individu.
Christophe Giraud, quels sont les lieux de la rencontre amoureuse et sexuelle des jeunes dans les années 2010-2020 ?
Alors les lieux ils sont variés, mais donc il y a un lieu qui monte effectivement, sont les applications de rencontres ou les sites de rencontres. Donc c'est Marie Bergström, la
sociologue,
la mesurée notamment, voilà, sociologue et collègue. Et puis ensuite, donc je dirais que juste après, c'est pas le premier lieu de contact, on va dire, mais juste après en fait, c'est ce que Camille soulignait, il y a ce premier temps de la rencontre physique qui est souvent dans un bar. C'est le moment où on peut se jauger, où on peut vérifier si nos sentiments sont toujours on va dire conformes ce qu'on avait ressenti en ligne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu compliqué, c'est-à-dire que pour se rencontrer physiquement, le seul lieu qui va rester, c'est chez soi, dans un des deux logements. Et d'une certaine façon, ça sexualise beaucoup le type de rencontre que l'on va avoir, alors que justement on aimerait peut-être davantage être dans une phase de séduction. Venir directement chez l'autre, c'est un risque, le risque de voir la rencontre se sexualiser, on va dire être plus proche du plan cul que d'une rencontre romantique.
Victor Thuayon.
Oui, c'est non, enfin bien sûr, le risque de voir la relation se sexualiser ou le risque d'agression sexuelle, évidemment. J'insiste sur ce truc de le confinement, c'est vraiment une période où on peut se poser la question de c'est quoi nos relations, comment on fait famille. Là, on parlait d'une mise en couple, une cohabitation en couple, mais il y a aussi eu d'autres modalités. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont testé des choses comme, qu'est-ce qui se passe si on dit que notre famille c'est nos amis, donc on va se confiner tous ensemble. Comment on garde des liens les uns avec les autres, avec qui on habite, je pense que ça peut être une période vraiment très fertile et très riche pour inventer de nouvelles choses, pour réinventer les relations en fait.
Sophie Cadalène.
Oui, je me suis souvent élevée contre cette accusation de notre époque qui était si individualiste, que l'individu effectivement y a une place très importante, plus importante qu'à plein d'autres époques. Certainement. Est-ce que pour autant, ça faisait de nous des êtres très isolés, très égoïstes? Tous égoïstes. Moi, il me semblait que non. Et je trouve que justement, si cette période révèle quelque chose, c'est comme on a besoin du lien. Et comme on est en lien. Et comme quand on ne peut plus vivre ce lien, y compris dans ses rencontres, on en parlait à l'instant, effectivement, on peut plus flirter, on peut plus se promener, se balader dans la rencontre, avant d'éventuellement concrétiser. Et comme ça nous manque. C'est notre frustration la plus énorme, là, tous. Amour ou pas amour. On veut de l'autre.
Oui, vraiment, c'est une période où on réalise à quel point on a besoin des autres, à quel point on est vulnérable aussi. C'est très dur, en fait, d'être confronté, enfin, désolé, je vais employer ces mots-là, mais d'être confronté à notre finitude, à notre vulnérabilité, à notre solitude, parfois. Et à la fois, je me dis qu'à partir de ça, on peut réinventer des relations qui sont moins stéréotypées, qui correspondent moins à des normes. Et je pense que ça peut être une période où on peut faire le point aussi sur qu'est-ce qu'on veut dans la vie, en fait. Dans le documentaire « Le cœur sur la table », on a recueilli plein de témoignages de personnes qui remettent en question les normes du couple, donc ce qu'on appelle l'escalator, quoi, le fait de suivre toutes les étapes et de se dire que c'est ça qui est normal, qui remettent en question les normes sexuelles, leurs attirances, comment elles veulent construire leur vie, et puis qui cherchent des façons d'être en lien de façon très profonde avec les autres.
René Grosard.
Oui, je voulais juste réagir sur le qu'est-ce qu'on recherche et ce besoin de d'être ensemble pendant ces confinements et ce couvre-feu, etc. C'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait par l'IFOP et qui disait qu'en fait, et c'était assez intéressant, je trouvais, que la proportion des Français qui admettaient avoir ressenti un manque de tendresse, de câlin, était en fait supérieure. On était à 47% à celle de ceux qui avaient prouvé un manque de sexe, où on était à 33%. Et je trouvais que ça racontait quelque chose un peu de cette période où en fait... le sexe, après on peut aussi réfléchir à ce que c'est que le sexe, parce que parfois on parle de sexe alors qu'en fait on a justement envie d'un câlin et enfin bref, moi je trouve que cette période est très intéressante et qu'elle permet de tout remettre peut-être à plat, quoi.
Allez, comment les jeunes vivent l'amour et leur sexualité en 2021 en pleine crise sanitaire? Élément de réponse dans quelques instants. Julien Macarez et Céline Dubois m'ont aidé à préparer cette émission. À la technique ce matin, Anne-Laure Cochet et Tiffany Battistel. La réalisation est signée Claire Destacan. La programmation musicale, Muriel Pérez. Et on écoute les Red Hot Chili Peppers. My friends. Sophie Cadalen, ça nous rappelle notre jeunesse, hein, les Red Hot Chili Peppers, hein, My Friends.
Bah, cette année, je devais faire un Erasmus avec des potes à Barcelone.
Grand bien vous fasse.
À la place, je le fais avec ma mère.
Sur France Inter.
À Drancy.
10h30, comment la jeune génération vit l'amour et sa sexualité pendant cette crise sanitaire? C'est notre question ce matin. Standard ouvert aux jeunes, hein, ce matin, au 01 45 24 7000. Les parents et les grands-parents peuvent également appeler pour raconter ce qu'ils observent chez leurs enfants ou petits-enfants. Alors Christophe Giraud, je rappelle que vous êtes sociologue. Les jeunes, alors j'aime pas trop parler des jeunes en général, mais bon, hein, on va dire les jeunes, ne recherchent pas tous la même chose en matière d'amour et de sexualité, des histoires sérieuses, des histoires légères. Mais peut-on dire que les jeunes des années 2010-2020 vivent encore l'injonction de vivre une histoire sérieuse, une injonction sociale qu'on retrouve notamment dans les séries, les films, les romans?
Tout à fait Ali. Le fait de vivre une grande histoire avec un partenaire stable, hein, ou une partenaire stable, est quelque chose qui est extrêmement important. C'est une façon d'entrer dans une forme de vie adulte, que d'avoir des relations longues. Donc c'est une forme de réussite. Et souvent on voit les jeunes se fermer à leurs amis quand ils ont trouvé un partenaire avec lequel ils ont l'impression de vivre une grande histoire. Et simplement, ces grandes histoires souvent se terminent assez rapidement, peuvent se terminer assez rapidement. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que les jeunes se mettent à douter du modèle qu'on leur a inculqué, ce modèle de l'amour romantique très fusionnel, et qu'ils développent justement d'autres registres relationnels. Ils expérimentent, comme le disait Victoire, notamment donc certaines jeunes femmes peuvent s'ouvrir à une sexualité qui est une sexualité sans engagement, et d'autres registres relationnels naissent, comme celui que j'appelais le registre des relations sérieuses légères, c'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle on rencontre quelqu'un, on commence une histoire exclusive, sentimentalement et sexuellement, mais on se promet rien pour l'avenir, c'est-à-dire que on laisse l'histoire s'écrire et on laisse les sentiments se sédimenter petit à petit, se cristalliser petit à petit, et on espère que les sentiments seront amoureux. Mais c'est un registre qui suppose du temps passé ensemble, des activités faites ensemble. C'est précisément ce qui manque en fait en contexte de pandémie.
Sophie Cadalen, psychanalyste.
Oui, on imagine, et là je parle vraiment d'un fantasme très général, comme la jeunesse forcément, la jeunesse aussi, encore un fantasme très général, comme un moment forcément très libre, très audacieux. Or, c'est un moment où on commence sa vie d'adulte avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'enjeux, même trop d'enjeux, et en fait on se raccroche à beaucoup de normes. Même malgré soi. Alors ça peut être des nouvelles normes, une espèce de tendance. Voilà, on va être on va essayer des relations comme ça éphémères ou de sex friends. Mais c'est souvent des modes, des courants. Et puis il y a en fond cette espèce de schéma du couple traditionnel, celui, celle qu'on va rencontrer, avec qui ça va durer toujours. Nous, on va y arriver, même si nos parents ont échoué. Donc c'est des modèles très très forts, très ancrés. Et effectivement, c'est peut-être ça, grandir, maturer, non pas vieillir, c'est faire tomber ces modèles et se demander, mais qu'est-ce que je veux moi ?
René Grosard, journaliste à l'Obs et à Rue 89.
Tout à fait. Alors, je sais pas si je dirais que c'est des modes. En tout cas, moi, ce que je ressens dans les témoignages que je recueille, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Je dis pas que c'est un changement pérenne et que ça va demeurer, mais en tout cas, je sens qu'il y a des graines qui sont posées et qu'il y a vraiment une envie de rediscuter les modèles. Je pense que le podcast de Victoire en est quelque part aussi le signe. Il est recevable. Enfin, il est par ailleurs génial. Je l'ai écouté. Voilà, je l'ai adoré. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il arrive aujourd'hui, c'est aussi le signe de quelque chose. Il se passe quelque chose où, en ce moment, on a besoin, on a envie de rediscuter ces normes. Et moi, ce que je vois, c'est que les cafés polyamoureux ont de plus en plus de succès. On peut écouter aujourd'hui des gens se dire aromantiques. Et tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles il y a 10 ans, en fait. Enfin, sur les applis genre OkCupid, les gens se définissent comme polis, aromantiques, parfois même asexuels. Enfin, il y a ça bouge beaucoup, quoi. On est dans une sorte d'ébullition, je trouve.
Allez, je vous propose d'écouter justement un extrait du formidable podcast de Victoire Thuaillon, Le cœur sur la table, et le premier épisode intitulé La princesse et l'escalator.
Qu'est-ce qu'on fait des normes du couple, de l'engagement?
la fidélité, l'exclusivité. Et de tout ce que ça implique, les relations intimes avec les autres. De tous les efforts que ça demande de se comprendre, de comprendre l'autre, de créer des relations équilibrées, malgré le poids de tout ce qu'on ne contrôle pas. Bien sûr que dans un monde enfin débarrassé de toutes les oppressions systémiques, nos relations seraient métamorphosées. Mais tant qu'on est vivant, il nous faut composer avec ce qui existe, tout en cherchant à le transformer. On ne va pas attendre la révolution pour s'aimer. Et puis s'aimer, c'est peut-être aussi l'une des façons de faire la révolution.
Victoire Thuayon, dans votre podcast, vous interrogez la norme du couple.
Alors oui, en fait, on essaie d'interroger toutes sortes de normes, mais c'est la norme du couple, c'est aussi la norme de l'hétérosexualité. C'est la norme de l'amour romantique, la norme qui veut qu'on mette sa relation amoureuse, ou en tout cas les questions amoureuses, au-dessus de toutes les autres relations amicales. Ce qui nous pousse par exemple à ne pas voir que l'amour, ça circule dans toutes sortes de relations, peu importe les noms qu'on leur donne. Mais ce qui peut aussi nous pousser à nous accrocher à des relations où en fait, il n'y a pas d'amour. C'est juste une convention de couple ou alors la peur de la solitude, mais où il n'y en a pas vraiment. Et donc, en fait, on réinterroge nos relations au prisme aussi de toutes les analyses féministes, antiracistes, enfin tous les mouvements politiques là d'émancipation qui sont en train de secouer très très fort la société depuis quelques années et qui, je pense, vont vraiment nous permettre de créer des relations qui soient enfin équilibré et égalitaire, parce que là, on n'y est pas du tout encore. Et donc oui, ça demande de remettre en question toutes sortes de choses, mais ça peut être douloureux, mais c'est surtout très joyeux, en fait. Mmh. Et dans le documentaire Le cœur sur la table, on entend plein de gens qui inventent autre chose, qui essayent des choses différentes, qui se préoccupent de la façon dont ils se parlent, dont ils se touchent, de leur désir, du désir des autres. Et enfin, moi, je trouve ça très joyeux et très positif, en fait, ce qui est en train de se passer.
Sophie Cadalen.
Oui, oui, et c'est très compliqué de mettre à bas des normes. Mmh. Y a vraiment un mouvement, malgré nous, on veut intellectuellement mettre à bas ces normes, et puis en même temps, il y a cette espèce de vertige devant ce grand vide. Qu'est-ce qui, voilà, comment on va faire, et qui réclame effectivement de s'exposer, on dirait en psychanalyse comme sujet, de quoi j'ai envie moi. Donc, quand je parlais de mode tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours quelque part le danger de pousser des normes et d'en redéfinir d'autres.
Oui.
Mais ce qui est intéressant, et là je vous rejoins complètement Victoire en ce moment, c'est qu'il y a tellement de choses différentes, tellement d'intentions différentes, tellement d'ambitions et de dénonciations différentes, que ça rend un paysage très très flou, très compliqué, et que dans cette complication-là, on peut peut-être enfin commencer à avoir la possibilité de s'inventer vraiment, soi et avec l'autre.
Tiens, rappelez-nous, Victoire Thuayon, ce qu'est l'escalator de l'amour quand on s'engage dans un couple, cet escalator que l'on emprunte et où il est parfois difficile de revenir en arrière, quand par exemple on se rend compte qu'on n'a pas forcément envie de cohabiter avec l'autre, qu'on n'a pas forcément toujours envie de dormir dans le même lit, de voyager, qu'on a envie de voyager avec une autre personne. Et j'ai l'impression que la jeunesse, au sens très large, remet en question ce modèle de l'escalator du couple.
En quelques mots, l'escalator, c'est un concept assez imagé qui permet de comprendre ce que, c'est-à-dire de définir l'ensemble des normes qu'on attache à l'amour romantique et aux relations où il y a de l'amour romantique. Et donc, ce qui est attendu, c'est qu'on s'engage de plus en plus et que ça suive un ordre de marche bien précis. Voilà, c'est ça l'escalator. Et qu'effectivement, quand on se dit, mais en fait, est-ce que c'est moi qui ai vraiment envie de faire ça, ou est-ce que c'est juste, je me dis que ce serait bien qu'on se marie, ce serait bien d'avoir des enfants, ce serait bien d'habiter ensemble, ça permet de redéfinir ce qu'on veut pour soi, et aussi, je pense, de sortir d'une logique de sacrifice, parce que ce que ça veut dire encore aujourd'hui d'être élevé comme une femme, et notamment hétérosexuelle, c'est de mettre l'amour au centre de nos vies, au risque de pas savoir ce qu'on veut vraiment, au risque de sacrifier ses besoins, son envie. Et je pense que le mouvement féministe, les mouvements féministes qui montent très fort ces dernières années, permettent de remettre en question ça, et de dire et de tout bouleverser, en fait. Comment on fait du sexe, comment on s'aime, comment on va mener nos vies, est-ce qu'on veut ou pas avoir des enfants, est-ce qu'on veut ou pas être exclusif sexuellement, et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire aimer. Voilà.
René Grosard.
Mais j'ai rien à dire de plus parce que c'était tout très bien. Je plus sois tout ce que disait Victoire.
En fait, Victoire lit dans votre cerveau, René, elle est télépathe, donc non, mais... vous échangez là. Vous avez... peut-on dire, Victoire Tuaillon, que la fluidité, le refus des contraintes, le refus des étiquettes et des injonctions caractérisent une partie de l'imaginaire et des pratiques amoureuses de cette nouvelle génération, et pas qu'elle d'ailleurs.
Alors, je pense qu'on peut le dire. Sur la fluidité, par exemple, on voit aussi que ça arrive sur le genre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un refus de la et une remise en question de cette binarité de genre, qu'il y aurait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, le masculin, le féminin, avec des rôles. Tout ça, c'est en train de voler en éclats. Moi, je trouve ça génial. Je pense que c'est vraiment une libération. Mais je crois pas du tout, par contre, que ce soit un mouvement vers du coup, il y a pas d'étiquette, donc il y a pas de contraintes, donc on fait ce qu'on veut. Et puis en fait, je fais exactement ce que je veux. Ce qu'on défend dans le documentaire et la parole qu'on a recueillie aussi montre en fait notre besoin d'être, donc encore une fois, véritablement en relation, ce qui veut pas dire on fait ce qu'on veut sans se soucier des autres, mais comment on va inventer des relations où on prend en compte nos vulnérabilités, parce que comme on est humain, comme on est mortel, on est vulnérable et on a besoin d'amour, on a besoin d'en donner, on a besoin d'en recevoir. Et je pense que c'est ça qui est en train d'être réinventé aussi, en fait, c'est-à-dire que de devenir beaucoup plus responsable de nos relations et pas dans un truc un peu libertaire là de je fais ce que je veux et peu importe ce que ça fait aux autres.
Bref, Sophie Cadalen, les nouvelles générations nous montrent à nous autres beaucoup plus vieux qu'il n'existe pas qu'une seule façon d'aimer.
Oh, je crois heureusement que nous, peut-être beaucoup plus vieux, on n'a pas attendu les nouvelles générations.
Oui, mais pour s'interroger. Il pose la question sous d'autres formes. Enfin,
Exactement. C'est-à-dire que là, on sort d'une façon d'aimer, de vivre heureusement, qui a toujours existé, mais qui était cachée, en tout cas, pas posée comme modèle, qui était vécue de manière intime. Voilà, ça fait partie de sa vie à soi. On n'en faisait pas montre, on n'en faisait pas étal. Oui, ce que vous racontez là, c'est gagner effectivement sa mobilité, sa liberté, son autonomie. Et c'est se poser effectivement la question du désir. Qu'est-ce que je veux? Et ça ne veut pas dire je fais ce que je veux et je m'en fiche des autres, parce que si on veut soit tout seul sans tenir compte des autres, on ne va pas faire grand-chose. Mais c'est une question absolument vertigineuse, encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas avoir une réponse claire et nette. Voilà, ce que je veux, c'est ça. C'est je veux ça, et ça, et ça, et ça. Donc il va falloir choisir, il va falloir se positionner, il va falloir essayer, il va falloir s'exposer, encore une fois. Et c'est vraiment une véritable aventure que peut-être les jeunes, je l'entends, et j'en suis très heureuse aussi, revendiquent maintenant clairement, et peut-être encore plus en ces temps troublés, où on peut tellement pas de choses que au moins cette liberté, on peut la défendre, on peut y travailler au sens de pétrir, de modeler, d'accoucher de quelque chose. Mais encore une fois, voilà, c'est pas quelque chose qui est uniquement de l'ordre de la jeunesse, mais quelque chose, effectivement, qui peut poser la norme en général.
Christophe Giraud.
Oui, je voudrais sauver les générations âgées, dont je rentre dedans dans une étude que je réalise actuellement, en fait, sur les plus de 50 ans et sur les leurs nouvelles histoires après un divorce ou une séparation. On voit que la contestation de la norme de cohabitation, on va dire conjugale, est extrêmement forte. Il y a une très grande partie, en fait, des plus de 50 ans qui choisissent, en fait, d'avoir des relations ou des histoires intimes stables. Mais sans cohabitation et qui d'une certaine façon remettent en cause les normes de façon extrêmement forte. Si on regarde ce qui se passe chez les jeunes, il y a une certaine forme effectivement de contestation à l'intérieur des normes conjugales, de remise en cause, de réflexion, mais d'une certaine façon l'ensemble d'une génération finit par cohabiter, finit par faire des enfants. Donc il y a une sorte de, on pourrait dire, de remise. Je le dis comme ça, c'est tout à fait exagéré, hein, mais disons que certains spécialistes ont insisté plutôt sur le côté conformiste de la génération des 25 ans, 25-30 ans, puisqu'ils finissent par faire des ménages assez classiques. Je suis pas tout à fait de cet avis-là, mais c'est une lecture possible, on va dire, des comportements des jeunes adultes aussi aujourd'hui.
René Grosard.
Oui, je voulais revenir sur cette idée d'exprimer ses désirs, ses besoins, parce que je pense qu'il y a aussi un côté un peu plus sombre à tout ce qu'on disait précédemment sur cette révolution des normes. C'est aussi que si on s'écoute beaucoup, si on est beaucoup dans l'expression de ses désirs, de ses besoins, un risque qui existe et que moi je vois apparaître dans les témoignages que je recueille sur les applis, c'est d'être dans une forme de consumérisme aussi de l'autre, notamment avec des gens sur les applis qui disent chercher quelqu'un, mais presque comme s'ils cherchaient une sorte de robot quoi. Donc je cherche une femme blonde avec voilà qui fasse ce métier là, enfin je résume extrêmement grossièrement parce que c'est plus compliqué que ça, mais les applis organisent un peu cette idée de personnage parfait. Alors après ça existe depuis longtemps, dans Les Demoiselles de Rochefort j'aime bien citer Maxence qui dit, je vais éviter de chanter parce que je le fais à chaque fois et c'est ridicule, mais il dit je l'ai cherché partout, enfin voilà, il parle d'elle, elle a cette beauté des filles romantiques, enfin, et voilà, donc ça existe depuis toujours de chercher un idéal féminin comme Maxence, mais il y a cette espèce de pente glissante, je trouve, avec les applis de ça, et qui, pour moi, invite à beaucoup d'éthique, en fait, à une nouvelle éthique amoureuse, ce dont Richard Memto parle très bien dans son essai sur les applis, où en fait, ce qu'il dit, Sex Friends, exactement, je cherchais, merci Victoire. De me sauver. En fait, ce qu'il dit, c'est que cette nouvelle géographie des rapports amoureux, ce que disait Victoire sur le fait que l'amitié aussi peut être de l'amour, nous conduit à un soin plus grand des autres.
Et nous avions reçu dans cette émission Richard Memto, et c'est vrai que son livre est passionnant. Sophie Canalen.
Oui, je voulais réagir parce que oui, quand je dis écouter ses désirs, c'est pas du tout ce consumérisme-là. C'est la question qu'on pose sur le divan, par exemple. C'est qu'est-ce que je veux de ma vie, qu'est-ce que je fais moi pour ma vie. C'est pas qui je vais aller chercher pour faire ma vie. C'est toute la différence entre effectivement ce remplissage où on va piocher dans des possibilités apparentes pour égayer sa vie, se divertir, et puis effectivement cette remise en cause profonde, cette position qu'on va assumer, cette entreprise qu'on va mener qui est celle de sa propre vie et qui va rencontrer d'autres entreprises et qui pour le coup est pas si légère que ça et pas du tout facile assurément.
Victoire Thuillon.
Oui, je crois qu'en fait je pense qu'on est en train de vivre une révolution romantique et c'est pas seulement la remise en cause des normes, parce qu'on pourrait remettre en cause toutes les normes et en fait ça changerait pas les rapports de pouvoir. Je pense que c'est une révolution romantique au sens où on est en train de changer la façon dont on est en relation avec l'autre, c'est-à-dire de prendre en compte que l'autre existe en fait et qu'on veut être à égalité avec l'autre.
Allez, vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Comment les jeunes vivent l'amour et leur vie sexuelle au temps de la crise sanitaire? C'est donc notre question du jour. Et je vous propose d'écouter Hervé, Monde Meilleur.
Dans mon nez.
Et ça fait danser l'une de nos invitées, Victoire Tuaillon, danser sur Monde Meilleur.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
10h51, comment les jeunes vivent l'amour et leur vie sexuelle au temps de la crise sanitaire. Tiens, Sophie Cadalen, comment se séduire quand on a le visage caché par un masque? Comment aimer de façon insouciante quand on craint de s'embrasser, de se serrer dans les bras, voire plus, dans cette nouvelle société du sans-contact? Est-ce que la distanciation physique n'oblige pas à inventer un nouveau jeu de l'amour et de la séduction qui passerait par la parole?
Là-dessus, je suis pas si optimiste. Ouais. Moi, ce que j'entends surtout, ce que je vois surtout, c'est l'énorme écrasement de toute une jeunesse, voilà, qui est pas, comment dire, pour être créatif, faut être un peu libre quand même. Faut avoir justement envie. Faut avoir envie de s'amuser. Là, le temps n'est pas tellement à l'amusement. Néanmoins, heureusement, toujours dans ces périodes-là, il y a de la transgression, on fait quand même. Et quand vous parliez de comment se séduire avec un masque, Les yeux, ça marche très bien. La voix, évidemment, ça marche aussi. Il y a aussi des découvertes. Ouais. Se découvrir le visage sans masque. Ah, tiens, on se voyait pas comme ça. C'est étonnant comme ça transforme nos visages avec ou sans masque. Mais il y a aussi des tas de gens qui sont totalement tétanisés, qui n'ont pas du tout envie de s'amuser dans ces contextes-là.
Victoire Tuaillon.
Non, cette histoire de se regarder dans les yeux, là, je conseille juste cet petit exercice qu'on fait jamais. Mais en fait, si on s'assoit en face de quelqu'un qu'on connaît un peu ou qu'on aime très fort et qu'on se regarde 2 minutes entières dans les yeux sans se parler, c'est très fort comme expérience, en fait.
Et Victoire dit ça en me regardant, je suis très émue.
Bonjour Aurane, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Vous avez 23 ans, vous êtes élève au Conservatoire National Supérieur de Musique. Racontez-nous comment vous vivez l'amour en ce moment, pendant cette période compliquée.
Moi j'ai une expérience un petit peu originale, et je pense que il y a probablement d'autres jeunes qui ont pu vivre la même chose, mais c'est assez insolite. Mmh. C'est-à-dire que je suis assez confinée au mois de mars dans la résidence étudiante du conservatoire. Mmh. Et que c'est là que j'ai rencontré en fait plein de jeunes qui, comme moi, étaient restés de peur de ramener le virus à leurs parents. C'était une période où on avait encore très très peur tous. Mmh. Et donc on est restés confinés, on a fini par se voir les uns les autres. Et pour se soutenir, pour pouvoir faire de la musique ensemble, pour pouvoir partager, pouvoir se voir quand même, sans avoir trop peur de justement partager des moments intimes et finalement assez précieux pour nous. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie amoureuse encore aujourd'hui. Mmh.
Et comment ça se passe, Aurane?
Dans la résidence, quand on y était encore tous, c'était assez simple, en fait. On vivait comme dans une grande famille. On allait sonner les uns chez les autres et on connaissait tous les appartements de tout le monde. Et c'est vrai que depuis qu'on a tous déménagé un petit peu chacun de notre côté, c'est un peu moins simple de se voir.
Donc c'était plus fructueux au moment du premier confinement que par la suite.
Finalement, oui. Il y avait beaucoup plus de vie sociale au moment où on était en résidence tous ensemble que...
Tiens, j'aimerais qu'on accueille Lucie. Tiens, Lucie, vous avez 28 ans. Comment vous vivez l'amour et la sexualité au temps de la crise sanitaire?
Bonjour. Alors moi j'ai vécu le premier confinement célibataire et le deuxième en couple.
Qu'est-ce que vous avez préféré? Qu'est-ce que vous avez préféré?
Alors j'ai mieux vécu le premier confinement que le deuxième, en fait. Alors ce qui s'est passé, c'est que juste avant le premier confinement, j'étais sur un site de rencontre. À cette époque, je cherchais plutôt un galipote plutôt que quelque chose de sérieux. En tout cas, tel que je le pensais à ce moment-là. J'avais rencontré quelqu'un, on s'était vu une semaine avant le confinement, dans un bar. Encore. Et ça s'était très bien passé, on s'entendait très bien, il me plaisait physiquement, on se plaisait, on avait prévu de se revoir. Sauf que le premier confinement est arrivé, on est resté en contact pendant pendant ce confinement, on s'envoyait des messages, on s'appelait, on jouait ensemble à distance, bref, voilà. Mais pendant le premier confinement, du coup, au fur et à mesure des semaines qui passaient, je me suis rendu compte que, en fait, c'est plus ce que je recherchais, que j'avais plutôt envie de quelque chose de sérieux. Alors, est-ce que le confinement a exacerbé ça ou je pense que c'était déjà en moi, mais que le confinement a quand même aidé à ressortir ce fait, on va dire. Et donc, je me suis quand même dit, bon, bah, c'est pas grave, on va quand même voir ce garçon après le confinement. On est resté en contact, donc c'est très bien. On s'est revus, du coup, chez moi. Et en fait, il s'est rien passé. Déjà parce que ça a confirmé le fait que je cherchais plutôt quelque chose de sérieux et que ça ne pourrait pas se faire avec cette personne. Et en plus de ça, une chose que je ne pouvais pas savoir vu qu'on était à distance, c'est que bah en fait son odeur ne me plaisait pas.
Ah.
Je ne disais pas qu'il sentait mauvais, hein, pas du tout, mais juste son odeur ne me plaisait pas. Donc ça, je me suis dit que c'était quand même assez assez étonnant. C'est quelque chose que j'aurais probablement tout de suite su. Si on s'était vu, s'il n'y avait pas eu le confinement, on se serait vu une deuxième fois. Et je, voilà, là, c'était, ça a fait un peu de la chose. Mais...
Ça a été rédhibitoire, Lucie.
Ah oui, complètement. Ouais. Et c'est la première fois que ça m'arrivait où vraiment c'était à ce point-là. C'était pas, non, cette odeur-là ne pouvait pas. Je pouvais pas m'imaginer avoir des rapports avec quelqu'un qui avait cette odeur. En fait, c'est pas. Mais encore une fois, ça sentait pas mauvais. Hein. C'est vraiment très personnel.
Oui.
Mais voilà, c'est pas sa faute. Hein, voilà.
Sophie Canalen.
Oui, d'où l'expression « je ne peux pas le sentir
oui, ». Exactement.
Exactement. Donc oui, mais la rencontre s'est faite de mille et une variables, tout à fait subjectives et inconnues à soi-même la plupart du temps, qui se révèlent à différentes étapes.
Victoire Tuaillon, sur les témoignages de Lucie et d'Oran.
J'étais réjouie d'entendre Oran dire qu'elle avait créé une sorte de petite communauté. Là,
un phalanstère.
Bah oui, et en fait c'est... Enfin, bah pareil, ça, je trouve ça joyeux aussi, en fait, de dire que nos relations... Enfin, de se préoccuper de notre réseau affectif, et c'est pas forcément les gens avec qui on est en couple, et en fait on peut avoir des relations super riches et super profondes avec des amis et avec plusieurs personnes, et voilà, et je trouve ça super. Et quant à cette histoire d'odeur, bah oui, je le comprends. Oui.
Vous avez des anecdotes à nous raconter à ce sujet?
Il y a peut-être pas le temps, non, mais que oui, bah oui, ça manque de se toucher, ça manque d'aller danser,
de
ça
se renifler.
Bah, oui.
Christophe Giraud.
Oui, je trouve tout à fait intéressant. Le témoignage de Lucie, par exemple, montre bien à la fois comment les jeunes sont partagés entre différents registres relationnels, soit effectivement des rencontres qui sont légères, voilà. Donc c'est un galipote. Je connaissais pas l'expression.
J'adore cette expression.
Tout à fait amusant. Et puis en même temps, la même personne souhaite aussi avoir des rencontres qui sont cette fois-ci plus sur le long terme, plus on va dire sur un mode, on pourrait dire, conjugal. Et ce sont les mêmes jeunes, mais ils maîtrisent différents registres relationnels. Et en fonction des périodes, en fonction de leur biographie aussi, des moments biographiques qu'ils vivent, c'est plutôt tel ou tel registre qu'ils vont privilégier. Et là, Lucie a été, avec le confinement, confrontée à une sorte de changement, puisque c'est le registre plutôt de la rencontre suivie, un peu conjugale, qui a été privilégié, qui a fait qu'elle s'est écartée de son partenaire.
Merci beaucoup Lucie, Oran et Camille d'avoir témoigné ce matin. Dans quelques instants, l'émission continue, Grand Mamoufasse continue en Facebook Live. Vous pourrez dialoguer, témoigner, échanger avec Victoire Tuaillon et avec Sophie Canalen. Continuez à témoigner donc sur la page Facebook de Grand Mamoufasse. Merci Christophe Giraud. Je renvoie à votre livre L'amour réaliste, chèrement Colin. Victoire Tuaillon, je recommande votre podcast Le cœur sur la table. Merci beaucoup Sophie Canalen. Un livre à citer, allez.
Vivre, c'est désir, vite, vite.
Et merci à René Grezard que l'on peut lire dans l'Obs et dans Rue 89.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Bon, j'espère que vous êtes resté avec nous pour ce Facebook Live en compagnie de Victoire Tuaillon, hein, du podcast Le Cœur sur la Table, avec la psychanalyste Sophie Cadalène, avec le sociologue Christophe Giraud et avec la journaliste de l'Obs et de Rue 89, René Grezard. Tiens, Christophe Giraud, on prolonge là l'émission tous ensemble sur le Facebook Live. Dans votre livre, vous revenez sur ces jeunes femmes qui ne veulent pas se prendre la tête quand elles entreprennent une relation. Ça veut dire quoi, ne pas vouloir se prendre la tête ?
Alors c'est une expression qui revient assez régulièrement, mais quand une relation suivie commence sous cette forme-là, avec ce vocable-là, ça désigne une sorte d'accord entre deux partenaires et qui consiste en quatre choses continuer à se voir et pas que ce soit une rencontre d'un soir, être exclusif sentimentalement et sexuellement. Donc ne pas aller voir ailleurs, on n'est pas dans une relation ouverte. Promettre ou se promettre, on va dire, qu'on veut continuer, donc qu'on va poursuivre la relation, et puis faire en sorte que cette relation bouleverse le moins possible nos relations, nos autres relations amicales, nos autres engagements, les études. Donc la relation ne doit pas, on va dire, peser sur les études et doit pas peser non plus sur les rencontres amicales que l'on ou les groupes amicaux que l'on a et les rencontres que l'on fait. Donc souvent on n'associe pas le partenaire au fait, il est un peu caché et il doit on va dire s'accommoder de ces contraintes là.
Victoire Tuaillon, ça vous parle cette idée de ne pas se prendre la tête, c'est-à-dire de ne pas fixer le sens, le scénario de l'histoire qui commence, de ne pas se projeter dans le futur, de ne pas attendre que l'histoire soit conforme au canon de l'amour conjugal? Je connais déjà la réponse d'avance.
Allez-y, je vais dire quoi à votre avis, Ali ?
Oui, ça vous parle.
Mais oui, ça me parle, mais je fais une drôle de tête parce que je trouve que c'est une expression... terrible en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pas vouloir se prendre la tête? On préfère la perdre. Enfin, je comprends pas.
Qu'est-ce que vous aimez pas dans cette expression, tiens d'ailleurs?
Mais c'est qu'en fait, ça nie le fait que toute relation implique de la réflexion. Toute relation implique du soin. Toute relation implique de la responsabilité, de la parole, du lien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je veux pas me prendre la tête. Ça veut dire on objectifie l'autre, on le prend comme un objet. Ça veut dire en fait, est-ce que tu peux être exactement comme je veux, s'il te plaît, et sans que j'ai même besoin de te demander ce que je veux en fait. C'est vraiment, ça m'insupporte en fait cette expression-là, tout comme l'expression plan cul que je trouve vraiment détestable et très triste en fait. Et il me semble que, eh ben, toutes les relations, elles impliquent qu'on se prenne un peu la tête. Et c'est beau, et c'est doux de se prendre la tête quand on se caresse la tête et qu'on se masse le crâne, c'est très agréable aussi.
Sophie Cadalène.
Alors en fait. Oui, se prendre la tête. Mais c'est toutes les expressions qui ont été citées là, c'est s'engager, être en couple, c'est vouloir définir d'emblée le là de la relation et être sûr des rails dans lesquels elle va s'inscrire. Or, ce qui caractérise une relation, une réelle relation, c'est-à-dire qu'il y a de l'autre, effectivement, c'est le dérangement. Ça va de toute façon nous déranger. Ça va pas être comme on imagine. Il va pas se passer ce qu'on croyait aussi. On va se révéler peut-être avoir d'autres désirs que ce que l'on croyait. Ça va nous déranger. Et c'est beau le dérangement. C'est troublant. C'est dérangeant le dérangement. Mais ne pas se prendre la tête, c'est vouloir enfermer effectivement le quelque chose dans un petit précaré absolument maîtrisé. Ce qui ne peut pas être le cas d'une relation.
René Grezard.
Je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, et puis j'ajouterais que en fait ça c'est d'autant plus regrettable que en fait dans ce qu'on est en train de décrire là, il n'y a pas d'impossibilité par exemple d'avoir des relations qui soient sexuelles et pas amoureuses quoi. On peut très bien respecter quelqu'un avec qui on fait l'amour 5 minutes dans les toilettes en boîte de nuit, il n'y a pas de problème quoi. En fait, on n'est pas en train de dire que ça n'est plus possible. Enfin, l'idée c'est juste de se dire comment on respecte les gens, quel que soit le genre de relation qu'on a avec eux.
Christophe Giraud.
Oui, je pense que on peut critiquer, on va dire, l'expression, je suis d'accord. Mais l'idée, j'essaie de la reprendre, on va dire, le point de vue des personnes qui m'ont parlé. Et de ce point de vue-là, leur expression, c'est une expression de, enfin, qui vise à dire, on commence une histoire, on ne sait pas quel est le sens. Donc je vais dans le, c'est ce que dit Sophie Cadalen. On ne sait pas comment l'histoire va évoluer. Est-ce que ce sera une histoire avec des sentiments forts? Est-ce que ce sera une histoire conjugale? Est-ce que ce sera une histoire qui dure longtemps? C'est difficile de le fixer dès le départ. Et une partie en fait des jeunes qui ont des expériences, on pourrait dire inverses, c'est-à-dire qui reçoivent de la part d'un partenaire qu'ils ne connaissent pas des déclarations enflammées et passionnées et qui leur promettent l'amour pour la vie, ça, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est justement une, on va dire, une situation très perturbante parce que on n'y croit pas. Parce que l'amour suppose un peu de temps pour s'établir, parce que on ne se connaît pas l'un l'autre, et donc il faut du temps pour savoir si on s'aime l'un l'autre, si soi-même on est amoureux du partenaire qu'on connaît pas encore, et si c'est réciproque de la part de ce partenaire. Donc c'est pas du tout objectifier le partenaire, c'est pas du tout ça, c'est lui laisser le temps en fait.
René.
Mais alors peut-être justement que en fait on dit la même chose, c'est juste qu'il s'agit de respecter la personne qu'on a en face de soi et donc aussi de la considérer dans ses désirs, dans ce qu'elle est, dans ses besoins et de pas projeter sur elle en fait, ça c'est un gros problème quand même dans les relations en général. Ce qu'on attend d'elle et ce dont nous on a besoin, et encore une fois, il ne s'agit que de respect quand on fait ça.
Tiens, Chloé nous écrit sur la page Facebook à remettre tout en question, on culpabilise presque de vouloir une longue vie de couple avec enfant, heureusement qu'il n'existe pas qu'une façon d'aimer. Mais heureusement qu'on peut avoir plusieurs histoires, qu'on peut tester et se tester. Mais après tout, ça peut faire aussi beaucoup de bien d'être dans une relation stable et pourquoi pas longue.
Bah oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, en fait, la question, c'est pas du tout d'édicter des nouvelles normes. C'est d'ouvrir les possibles et d'ouvrir les horizons. Il se trouve que pour plein de gens, et aussi pour des raisons très objectives, pour les femmes, notamment dans les couples hétérosexuels, être en couple n'est pas le meilleur choix qu'elles vont pouvoir faire, en fait. Juste parce qu'en fait, donc j'en ai pas parlé pendant l'émission parce que je voulais pas plomber l'ambiance, mais en fait, être une femme hétérosexuelle aujourd'hui, c'est dangereux, en fait. Au sens où le couple, nos relations intimes et familiales sont les lieux où nous subissons le plus de violences, en fait. Les féministes reposent la question, est-ce que le couple c'est vraiment une si bonne idée? Et là je parle de violence, mais on pourrait aussi parler d'exploitation domestique, puisque et c'est un rapport aussi avec le confinement et avec l'épidémie de Covid, puisqu'on a vu que et les violences conjugales et la charge domestique avaient explosé en fait pendant ce confinement-là. Et donc ce qu'on cherche à faire, enfin pour ma part, et je sais que René est sur cette ligne-là, René Grosard aussi, et tous les travaux des personnes qui réfléchissent à l'amour, comment on relationne et tout, c'est de remettre en cause des modèles, de faire apparaître des réalités qui étaient tues ou qui étaient cachées ou qu'on veut pas voir en face. Par exemple que le couple hétérosexuel, c'est aussi un lieu de violence. Et qu'à partir de là, en toute connaissance de cause, on peut choisir. Mais on peut être averti aussi. Je pense que les choses seraient quand même bien différentes si, comme petite fille, on nous avait pas juste dit, en fait, tu sais, ce qui va t'arriver de mieux dans ta vie, c'est de vivre un grand amour. Et en fait, il faut que tu rencontres un prince charmant. Et en fait, c'est ça qui va devoir compter d'abord. C'est est-ce que tu vis de l'amour avec un homme hétérosexuel? Et si on nous avait dit, bah, en fait, l'amour, ça peut être bien et ça peut être dangereux aussi. Donc, en fait, fais attention à toi. Et ça, je trouve ça scandaleux qu'on l'enseigne pas et qu'on le dise pas plus, en fait.
Sophie?
Oui, c'est toute la différence, et cette auditrice a raison, qu'elle vit son histoire si elle a envie de la vivre. Mais c'est toute la différence entre c'est comme ça que l'on doit vivre, et c'est comme ça que la vie me donne envie de vivre. Ça devrait même pas être un projet préalable. On a encore à l'horizon le couple, effectivement, hétérosexuel, comme la seule norme possible. Et là, quelle que soit les tranches d'âge. Donc si on peut effectivement travailler là-dessus, le faire vaciller cet horizon, pour avoir effectivement celui de tous les possibles, oui, on pourra effectivement, dans le cours de sa vie, se dire à un moment donné, tiens, cet homme ou cette femme-là, j'ai envie de passer un grand temps avec, on verra bien combien de temps ça dure.
J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'habiter ensemble, j'ai envie de... Enfin, franchement, moi je comprends très bien, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ce qu'on dit juste, c'est, tiens, si on questionnait nos rêves et si on se demandait d'où ils venaient, en fait, et si on se demandait quel prix on est prêt à payer pour se conformer à ce modèle-là. Et le prix à payer, je trouve, pour les femmes est très élevé, en fait.
René ?
Oui, j'allais dire, et ça va même plus loin que ça, c'est que en fait, pour moi, cette discussion, j'entends très bien ce que dit cette auditrice, mais en fait, pour moi, cette discussion, elle va plus loin encore. Moi, qui suis mère d'un enfant de 5 ans, que j'aime beaucoup, enfin, je suis très ravie d'être sa mère, je trouve qu'en fait, cette discussion, en fait, elle va aussi dans qu'est-ce que c'est qu'être mère. En fait, si on aime comme on aime son enfant, et quelle mère je suis censée être, moi, par exemple, quoi. Enfin, est-ce que j'ai le droit, pardon, mais d'être une femme qui continue de faire la fête jusqu'à 10h du matin, si j'ai envie. Enfin, en fait, pour moi, tout ça, c'est des discussions qui ouvrent effectivement, comme dit Victoire, le champ des possibles. Et moi, voilà, je suis contente d'être en couple stable, mais je trouve ça important de se poser ces questions-là.
Tiens, j'aimerais vous lire le long message d'un jeune garçon de 19 ans qui a tenu à rester anonyme, qui est musicien. Je vous le lis et je le soumets à votre sagacité. Je suis arrivé à Paris l'an dernier, année de ma majorité, de mon indépendance et de la première fois où je devais complètement changer de milieu en repartant de zéro. Je comptais profiter de cette nouvelle vie pour m'épanouir dans des rencontres de tout type. Étant très timide, j'ai mis du temps à m'intégrer et ma première et dernière grande soirée sur Paris fut la semaine avant le premier confinement. Par chance, j'ai été confiné en résidence et j'ai donc développé un réseau amical de nécessité avec mes voisins. Ça n'a rien de péjoratif, on avait tous besoin de contact humain et on s'est beaucoup entraidé à ce niveau-là, je leur dois beaucoup. Mais ce n'étaient pas des rencontres surprenantes ou inattendues, elles étaient nécessaires. Je n'avais pas beaucoup à échanger, c'était vraiment lié au confinement. Quand je suis revenu à une vie plus ou moins normale en été, je me suis rendu compte que ça ne changeait rien à mon état social d'avant le confinement. Au niveau amoureux et sexuel, il ne s'est évidemment pas passé grand-chose. Ça a commencé à me déprimer sérieusement de ne pouvoir rencontrer personne, de n'avoir aucune spontanéité possible en matière de sociabilité. Et au deuxième confinement, après un Covid marqué qui m'a beaucoup fatigué sur tous les plans, j'ai craqué et j'ai installé des applications de rencontres. Ça ne m'a rien apporté humainement car les quelques mecs que j'ai rencontrés ont essentiellement profité de ma naïveté. Par contre, j'ai eu l'occasion de parler sans aucun objectif avec beaucoup de gens extrêmement différents de moi qui avaient aussi besoin de créer du contact humain, même artificiel, et qui se posaient aucun tabou. Les conversations écrites permettant de parler de soi très librement, surtout sur une appli où chacun est anonyme. C'est complètement illusoire, ça ne fait que faire couler les problèmes sans les résoudre, mais c'est très addictif et j'y passais mes journées. Et j'ai fini par les désinstaller parce que je me suis rendu compte que je m'enfonçais dans un cercle vicieux où le fait de parler devenait juste un réflexe égoïste. Tout devenait extrêmement déshumanisant et j'avais l'impression de me servir de ces mecs pour compenser mon manque affectif sans m'intéresser réellement à eux. J'en suis donc sorti à la fois dégoûté et grandi, car aussi artificiel que soient ces applis, je n'aurais jamais eu l'occasion de parler à ces gens en dehors et ce sont donc les rencontres les plus surprenantes que j'ai faites d'une certaine façon. Victoire Tuyon.
Ouais, il écrit bien, hein. Ça doit être beau de parler avec lui sur les applis de rencontre. Il repose cette question de c'est quoi être en lien en fait avec les autres. Est-ce que c'est se servir des autres pour ses propres besoins? Il dit qu'il en avait assez de parler, et je pense que ça peut être aussi une période qui est propice à l'écoute et à développer encore une fois une écoute qui soit profonde, qui soit dans la rencontre. Je l'ai pas dit là pendant l'émission, mais je me dis, moi j'ai expérimenté ça dans ma vie. J'imagine que c'est peut-être le cas pour d'autres personnes aussi, mais ces soirées là à la maison, moi j'ai passé beaucoup de temps au téléphone en fait avec des gens à qui j'avais pas parlé depuis un moment, et on a pris le temps en fait de se raconter des choses importantes, pas juste de se distraire et tout, mais de parler de tout ça, de comment on se sentait, de comment on était angoissé, de comment était la vie, et de qui on était et voilà, donc après son impression de... Enfin, je sais pas, après, il a 19 ans, c'est ça. Et je me souviens, enfin, moi, j'ai plus 19 ans, j'en ai 31, mais... Et bah oui, c'est l'âge aussi, on apprend à se jauger, à qu'est-ce qu'on aime, comment on ressent cette vibration particulière d'une rencontre qui va être importante. On fait plein de choses, je suis pas sûre que le confinement fasse grand-chose à ça.
Oui, Sophie. Je trouve dommage, oui, c'est très bien écrit, cet auditeur mystérieux, mais je trouve dommage qu'il s'accuse, comme il le fait, de s'être épanché, répandu, j'allais dire, mais répandu, ça fait un peu péjoratif. Non, il a trouvé des écoutes, il a trouvé des gens, effectivement, vous parliez Victoire d'écoute, bah oui, mais on écoute pour que quelqu'un parle aussi. Donc s'il a trouvé, effectivement, et il devait très bien parler, puisqu'il écrit si bien, c'est très bien, c'est quand même, comme vous dites, du lien, c'est quand même... C'est quelque chose, c'est comme des rencontres. Il parle de rencontres extraordinaires qu'il a pu faire là. Donc, je crois, non, faut enlever. Et c'était pas faux non plus, il dit.
Exactement.
Ce côté illusoire, ce côté. Non, c'est une réalité. C'est pas la seule. Il y en a plein. Mais c'est une réalité aussi.
René?
Ouais, j'ajouterais que en fait, il y a ce besoin dont ce jeune homme parle. En fait, il met le doigt sur un concept dont j'ai entendu parler assez récemment, qui est un concept sociologique du lien social faible.
Oui.
Et qu'en fait, on a perdu ces derniers temps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se parlait entre nous, on parlait pas juste à nos proches. On parlait aussi, je sais pas moi par exemple, qui fait beaucoup la fête, je parlais à des inconnus en soirée. Et ça me faisait un bien fou d'avoir des discussions pendant un moment avec des gens que je n'allais jamais revoir. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qu'on essaye de recréer et qui nous manque, c'est que là, en fait, les gens à qui on parle, ce sont nos extrêmes proches, en fait. On n'a plus d'autres liens que ces liens de très, très proches. Et moi, personnellement, je sais que ça me manque et que ça me mine même. Et en fait, je trouve que dans ce témoignage, c'est ça qu'on ressent aussi. C'est ce besoin, en fait, de liens social faibles, peut-être.
Et vous parliez de liens faibles. Je recommande le livre de Sandra Laugier et d'Alexandre Geffen qui s'appelle « Le pouvoir des liens faibles ». Christophe, je crois qu'on doit vous libérer. En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce Facebook Live. En tout cas, merci Sophie Cadalen, merci Victoire Tuaillon et merci René Grosard d'avoir joué le jeu.
Merci.
Et à très bientôt. Merci à tous.